C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices, nous avons découvert comment Roosevelt, le pacifiste, poussait en fait à la guerre en sous-main. L'affaire de la Pologne en est l'illustration. Les Polonais se sentaient invincibles, assurés de l'assistance anglaise en cas de conflit avec l'Allemagne. Les Anglais, eux, se sentant sécurisés par la promesse du bouclier américain, ils avaient placé leur avenir entre les mains d'un régime polonais autoritaire et antisémite. Le corridor de Dantzig devait être le déclencheur. On nous a vendu l'histoire d'un Hitler intransigeant qui avait envahi la pauvre Pologne avec son armée de soudards. La réalité est sensiblement différente. En 1922, seuls 3% des 365 000 habitants de la ville de Dantzig étaient polonais. Les Allemands, immensément majoritaires, lorgnaient vers Berlin dont la prospérité économique éclatante en comparaison avec l'économie de crise polonaise les attirait comme un aimant. La ville était sous protectorat de la Société des Nations. Le 24 octobre 1938, Hitler fit une proposition. Il annexait Dantzig, faisait réaliser une autoroute et un chemin de fer pour relier la ville à la Prusse orientale. Et il offrait aux Polonais de disposer d'un port franc à Dantzig avec possibilité d'y réaliser leurs propres autoroutes et leurs propres réseaux ferrés, et de plus, les marchandises polonaises seraient exemptes de taxes allemandes. Ce n'était pas tout. Hitler proposait une garantie pour les frontières de Pologne sans revenir sur l'attribution à Varsovie de la riche Haute-Silésie, ex-territoire allemand. Une opportunité inespérée. Les Polonais mirent 5 mois à réagir. Leur première réponse fut de menacer d'une mobilisation et de fait des centaines de milliers de réservistes furent mobilisés. Leur seconde réponse du 26 mars 1939 fut cinglante. Non seulement c'était non, mais si les Allemands persistaient dans leurs idées, c'était la guerre. Le 31 mars 1939, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Halifax, confirmait ce qui avait été dit la veille aux Polonais. Si ceux-ci estimaient que la guerre était nécessaire à leur protection, les Anglais se joindraient à eux. Une assurance sur la vie sans aucune contrepartie de la part des Polonais qui pouvaient décider unilatéralement de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. Les Polonais, confiants dans leurs propres forces armées, méprisants à l'égard de l'armée allemande et confortés par l'appui britannique, pratiquèrent alors l'expropriation des terres possédées par les Allemands en leur accordant royalement 1/8 de leur valeur réelle. Le pacte de non-agression germano-polonais de janvier 1934, prévu pour 10 ans, n'avait plus cours. Józef Beck, ministre des Affaires étrangères polonais, prononça le 5 mai 1939 un discours qui ne laissait plus aucune place à la négociation. Les Allemands vivant en Pologne se retrouvèrent otages d'un gouvernement qui ne leur voulait pas du bien et se lavaient officiellement les mains de ce qui pouvait leur arriver. Un citoyen allemand ayant été tué à Dantzig et le gouvernement polonais étant sourd aux protestations, des milices allemandes se créèrent pour protéger leurs ressortissants qu'à l'évidence la Société des Nations était incapable de sécuriser. Il s'ensuivit des rétorsions douanières frappant la ville de Dantzig. Les Polonais adressèrent un ultimatum à la population. Elle devait se soumettre aux exigences des douaniers polonais au mépris du statut de la ville. Hitler conseilla d'accepter l'ultimatum. Le 7 août 1939, un journal de Cracovie révéla que des unités polonaises franchissaient régulièrement la frontière allemande, détruisant des installations militaires et repartant avec du matériel. Roosevelt s'alarma de ces provocations polonaises trop visibles et demanda à Józef Beck de jouer plus finement de façon que le monde puisse gober que les provocations venaient de l'agresseur allemand. Mais Beck, conforté par le soutien des Britanniques, ne tint pas compte du conseil. Mieux, lorsque le directeur de campagne démocrate et le ministre américain des postes se rendirent à Berlin, tout fut fait par Roosevelt pour qu'il n'ait aucun contact avec les Allemands pouvant compromettre ce qui était planifié. Le 14 août 1939, les Polonais s'en prirent aux Allemands de Haute-Silésie orientale. Arrestations massives, fermeture et confiscation des entreprises et des organismes de protection sociale, licenciements sans droit au chômage, marches forcées en colonne de prisonniers, mutilations, passage à tabac, exécution de ceux qui tombaient sur la route. 80 000 Allemands se ruèrent vers la frontière pour trouver refuge chez Hitler. Des correspondants de journaux américains firent état des exactions en cours. Neville Anderson, ambassadeur britannique à Berlin, fit remonter à Lord Halifax les persécutions en cours, mais ne trouva aucun écho et pour cause. Halifax voulait à toute fin sa guerre contre l'Allemagne. Le 23 août 1939, le pacte de non-agression germano-soviétique fut signé, avec un protocole secret réservant une influence soviétique sur l'Europe orientale, mais prévoyant que cette sphère d'influence ne s'appliquerait pas en cas d'accord diplomatique entre Varsovie et Berlin. Cette tentative pour éviter la guerre n'aboutit pas. Chamberlain comme Beck ne souhaitaient pas négocier. Enfin, les Allemands, le 29 août 1939, firent de nouvelles propositions, le plan Marienwerder, afin d'ouvrir un espace de discussion et de propositions. Nouveau refus polonais et mobilisation générale de son armée par Varsovie le même jour. Le 1er septembre, l'Allemagne envahissait la Pologne et Chamberlain comme Halifax pouvaient claironner au monde que Hitler portait l'entière responsabilité de la guerre. On évoqua une fausse agression polonaise contre une station radio allemande pour servir de prétexte à l'offensive de la Wehrmacht. On oublia de mentionner ce pont sur la Vistule, dynamité unilatéralement par les Polonais. On mit le boisseau sur les 5000 civils allemands massacrés en Pologne dans un climat d'affolement devant l'avancée des troupes nazies assortie de l'activité d'agents de l'Abwehr en territoire polonais jouant le rôle d'une cinquième colonne. Le décompte de 5437 morts passa à 12857 et on fit état de 45 000 disparus. Ces massacres furent constatés par la Croix-Rouge ainsi que par les observateurs américains. Il s'agissait la plupart du temps d'exécutions avec armes à feu accomplies par les autorités polonaises. Il devait servir de caution ensuite pour le traitement sanglant réservé à la Pologne par les nazis. Halifax était aux manettes pour pousser à la guerre, de concert avec Roosevelt. Lorsque le 2 septembre, une conférence avait été programmée entre d'une part Italie et Allemagne et d'autre part Angleterre, France et Pologne, Halifax avait exigé comme préalable le retrait des troupes allemandes de Pologne et de Danzig. Cela, bien évidemment, avait fait capoter l'initiative.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Voulez-vous danser marquise? Voulez-vous danser le menuet? Vous serez vite conquise. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Oh, oh, oh. Entrons en danse, quelle cadence. Le menuet, c'est la polka du roi. Pendant que le marquis sommeille, je veux poser un baiser sur vos doigts fluets, sur votre bouche vermeille. Moi pour l'amour, je suis toujours prêt. Entrons en danse, quelle cadence. Le menuet, c'est la polka du roi. Montons sans faire de tapage, tout en dansant le menuet là-haut. Montons jusqu'au troisième étage. Du bonheur nous aurons bientôt. Entrons en danse, quelle cadence. Le menuet, c'est la polka du roi. Oh, nous aimons, minute brève. C'est dans la joie, la soie et le satin que j'accomplis mon plus beau rêve. Chérie, je vous possède enfin. Oh, 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 entrons en danse, que le cadence. Oh, 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 le menu est celle, la polka du roi. Mais soudain, qu'y a-t-il, marquise? Je ne vous sens plus très bien dans mes bras. Vous fondez comme une banquise. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Ah ah ah, entrons en danse, quelle cadence. Ah 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 ah, le menuet c'est pourtant la polka du roi.
Hélas, monsieur, je suis en cire. Et vous, vous êtes au musée Greffin, Louis XIV. Ah, triste sire, nous ne sommes plus des humains. Fini la danse, plus de cadence. Ainsi s'achève la polka du roi.
Lorsqu'on évoque l'Angleterre stoïque sous les bombes, on imagine le flegme britannique qui vous fait sacrifier au rituel de la tasse de thé tandis qu'autour les vitres explosent, et on glorifie ce peuple maître de ses nerfs par opposition au foutoir que fut l'exode sur les routes françaises. Pourtant, Bien avant que la population anglaise subisse la moindre égratignure, l'affolement régnait outre-Manche. Dès 1938, le ministère de l'Air, constatant que Londres était à portée d'avions allemands, théorisait que si la Luftwaffe l'emportait sur le Royal Air Force, on déplorerait 65 000 morts par semaine et la destruction de la capitale. Un organisme, l'ARC, Air Raid Precaution, était en charge de la distribution de masques à gaz, de la construction d'abris anti-aériens, de l'organisation du blackout, des opérations de secours aux blessés, mais pas uniquement. Il s'occupait également de la protection des ressources vitales. En août 1939, on crée le NARPAC, ou National Air Raid Precautions Animal Committee. Il est considéré que si les vaches, les porcs, les chevaux, les volailles sont utiles en temps de guerre, il n'en va pas de même des animaux de compagnie. Il faut importer 20 millions de tonnes de nourriture pour la population anglaise, on va s'acheminer vers un rationnement, alors qu'on estime que les chats consomment 68 millions de litres de lait chaque année et que les chiens engloutissent 280 000 tonnes de nourriture. Ce n'est pas supportable en ces circonstances. Et c'est ainsi qu'à l'été 1939 et avant que la guerre n'éclate, le NARPAC édite une brochure intitulée « Advice to Animals Owners, recommandations aux propriétaires d'animaux », avec en fin de lecture le conseil suivant. Si vous ne pouvez pas les confier à des voisins habitant la campagne, il est plus sympa de les tuer. Et jointe une publicité pour un pistolet d'abattage utilisé pour le bétail, arme munie d'une tige qui se détend et s'enfonce dans le cervelet de l'animal. Ces conseils sont publiés dans les journaux, diffusés à la BBC et présentés comme des actes de compassion avant le déluge des bombes. Alors que durant des mois le pays est épargné, le massacre des animaux de compagnie est tel que l'on manque de chloroforme et que les incinérateurs ne suffisent plus. En 4 jours, 450 000 chiens et chats sont ainsi supprimés par piqûres, coups de marteau ou simplement balancés à l'eau. À Londres, un animal sur 4 sera ainsi froidement tué lors de la première semaine de guerre où aucun dommage n'est subi. Le bilan définitif dépasse 750 000 animaux ainsi sacrifiés, avec parfois un encart dans le journal demandant pardon à celui ou celle qu'on a condamné à mort. Il y aura d'ailleurs des dégâts collatéraux puisque la suppression des minets fera le bonheur des surmulots. Des voix s'élèveront, telles celles des sociétés de protection des animaux. La duchesse de Hamilton ouvrira un refuge géant pour chiens sur un ancien aérodrome. Bien entendu, ce carnage sera mis sous le tapis et l'historienne Hilda Keane devra faire preuve d'obstination pour exhumer l'irracontable. D'autant plus si on évoque que dans le camp adverse, plus d'une vingtaine de textes de loi concernant la protection des animaux domestiques ou sauvages avaient été publiés par le Troisième Reich, dont le Führer avait en 1934 été élu lauréat de la Fondation américaine pour le droit des animaux. Amis auditeurs et auditrices, lors de notre prochaine rencontre, nous découvrirons par quelle manœuvre tortueuse on amena Hitler à déclarer la guerre à l'Amérique. Une guerre qu'il ne souhaitait pas.
Sur Radio Nîmes, 92.2.
C'est dans l'aube, chère à Verlaine, que tu courais notre domaine, humant l'air des quatre saisons, odeur de thym et de bruyère, sous tes pattes fraîches, légères, s'élevait comme une raison. Berger des landes familières, tu vivais digne et solitaire, animal doué de raison. J'écris ce jour anniversaire où tu reposes sous la terre, à deux pas de notre maison. Hurrah, hurrah, hurralou. Oural, ouralou, oural, oural, ouralou, oural, ouralou. On voit souvent des souveraines à la place des rois qui règnent, rien qu'en posant leurs yeux dessus. Il faut se méfier du paraître de nous deux qui était le maître. nous ne l'avons jamais bien su. Tu vécus la vie parisienne, la nuit sur les quais de la Seine, les music-halls et les tournées, et cette vie qui fut la mienne, il me semble que tu l'entraînes à la semelle de tes souliers. Hurrah, hurrah, hurralou, hurrah, hurralou, hurrah, hurrah, hurralou, hurrah, hurralou. Jour après jour, il faut l'admettre, voir ce qu'on aime disparaître, c'est ce qui fait vieillir trop tôt. Au paradis des chiens peut-être, ton long museau à la fenêtre, tu nous accueilleras bientôt. Au triple galop caracol, je vois tes pattes qui s'envolent, chevauchant l'herbe et les nuées. Le vent siffle dans ton pelage, vole, vole mon loup sauvage, comme au temps des vertes années. Hurrah, hurrah, hurralou, hurrah, hurralou, hurrah, hurrah, hurralou, hurrah, hurralou.